Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, à l'hôpital de Reims, l'arrêt des traitements de Vincent Lambert a commencé ce matin. Des années que sa famille se déchire autour du cas de cet homme dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008. Colère de la mère ce matin, les médecins l'ont prévenu par mail de l'arrêt des traitements.
C'est un crime, c'est tout. C'est pour faire passer l'euthanasie, ça les arrange. C'est une honte.
L'avocat veut lancer de nouveaux recours. Conseil d'État, Cour européenne des droits de l'homme à nouveau saisie. Ces recours ont-ils la moindre chance d'aboutir? Nous allons à Reims dans un instant et les éclairages de Corinne Audouin et Daniel Messager. Et il y a quelques minutes, cette précision de la Société de soins palliatifs, elle déplore les déclarations catégoriques dans cette affaire. Le Rassemblement national accusé de faire le jeu de Trump et Poutine en cause la présence de l'Américain Steve Bannon à Paris à quelques jours des européennes. La majorité mitraille, l'extrême droite, calomnie et diffamation, répond Marine Le Pen. Qu'en est-il? Nous verrons cela avec Maxence Lambrecq et puis l'invité du journal de 13h, le spécialiste de l'extrême droite Jean-Yves Camus. Question aussi à Monsieur Camus sur la crise politique en Autriche, l'extrême droite accusée de rouler pour la Russie. Les États-Unis contre Huawei, on entre dans le très concret. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour.
Google cesse de coopérer avec Huawei. Quelles conséquences très concrètes, Adrien?
Alors pour ceux qui ont déjà un téléphone de la marque Huawei, pas grand-chose en réalité. Il fonctionne comme d'habitude pour l'instant, et le constructeur promet que rien ne changera pour eux. Pour ceux qui pourraient acheter à l'avenir un Huawei, là ça va se compliquer. Et puis pour ceux qui, comme vous Bruno, ont un vieux téléphone à clapet, aucun problème, la terre continue de tourner.
Dans ce journal encore, la colère d'une partie des taxis, auto-écoles et ambulances contre le projet de loi mobilité, opération escargot, gros bouchon ce matin en région parisienne mais aussi à Toulouse. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que nous dit Météo France en ce lundi?
Eh bien la tendance est à la lente accalmie, mais il faudra encore composer avec de nombreux nuages cet après-midi, des passages d'averses et des orages. C'est surtout sur l'est que les averses seront les plus fréquentes, alors que les éclaircies seront plus nettes en allant vers l'ouest. Les plages de l'Atlantique auront même un après-midi bien ensoleillé. Et puis les températures sont en légère hausse, 15 à 20 degrés cet après-midi et jusqu'à 23 degrés autour de la Méditerranée.
Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. C'est par un mail adressé à la famille que le médecin responsable des soins palliatifs à l'hôpital de Reims a prévenu de l'arrêt des traitements sur Vincent Lambert. Comme il l'avait annoncé, il commence donc à cesser ces traitements qui maintiennent en vie cet homme d'aujourd'hui 42 ans, victime d'un accident de la route il y a 11 ans, tétraplégique, en état végétatif, arrêt de l'hydratation, de l'alimentation, sédation profonde et continue, des produits antidouleurs. La mort peut intervenir d'ici quelques jours, une semaine. Nous allons au CHU de Reims. Bonjour les Aiguillennes.
Bonjour.
La famille est déchirée depuis de longues années. L'épouse de Vincent Lambert pour l'arrêt des traitements, sa mère contre. Elle est passée à l'hôpital ce matin, Lisa.
Oui, ce matin, les parents de Vincent Lambert sont arrivés vers 9h30 avec plusieurs de leurs proches. Et c'est donc par mail qu'ils ont été prévenus plus tôt dans la matinée de l'arrêt des traitements. Après 1h30 de visite, Viviane Lambert, la mère de l'ancien infirmier, a crié sa colère devant les journalistes.
Vincent nous a bien entendu, Vincent. Vincent, on lui a dit tout ce qu'on voulait lui dire, mais on est en train de l'éteindre petit à petit feu. C'est une honte. J'ai honte pour la France, j'ai honte pour la médecine. Mon mari qui est médecin, il m'a dit, on enterre Hippocrate.
Car les parents crient toujours au meurtre, à l'euthanasie déguisée de leur fils, Pierre, le père de Vincent Lambert.
J'ai rencontré à un instant, quelques secondes, le docteur Sanchez. Je lui ai dit, vous n'avez pas le droit, ni médicalement, ni moralement. Je lui dis, je suis médecin, vous aussi, et puis il est parti.
Le docteur Sanchez visé par un nouveau recours des parents. Aujourd'hui, les proches de Vincent ne lâcheront rien devant l'hôpital. Hélène, une cousine éloignée de la famille, dit être arrivée de Nîmes cette nuit pour entamer une grève de la faim.
Jusqu'à ce qu'il se remette à l'alimenter ou jusqu'à ce qu'il meure.
De leur côté, les proches de Vincent Lambert en faveur de l'arrêt des soins sont restés discrets hier et ce matin. Mais son neveu, François, devrait se rendre au CHU dans l'après-midi.
Merci Lisa, en direct de Reims avec Christophe Papon. Parmi ses proches en faveur de l'arrêt des soins, il y a notamment l'épouse de Vincent Lambert. Alors le Conseil d'État, la justice européenne ont validé l'arrêt des soins. Mais les avocats de la mère de Vincent Lambert veulent lancer de nouveaux recours. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
En quoi consistent ces recours?
Alors le 24 avril dernier, le Conseil
Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative en France, a validé la décision d'arrêt des soins. Les recours judiciaires en France étant donc épuisés, les parents de Vincent Lambers ont saisi le Comité international de protection des droits des personnes handicapées, qui est rattaché à l'ONU. Début mai, ce comité demande à la France de suspendre toute décision. Mais selon le gouvernement français, cette demande n'a pas de caractère contraignant. Et puis surtout, elle entraverait le droit du patient à ne pas subir d'obstination déraisonnable. Et c'est ce que conteste Jérôme Triomphe, l'avocat des parents de Vincent Lambert.
Ce que nous réclamons de la justice, c'est de faire respecter les mesures provisoires en application d'une convention qu'a ratifiée la France et que cette dernière refuse de respecter au prix d'un mensonge d'État consistant à dire que ces mesures ne seraient pas obligatoires. Si Vincent meurt en violation de ces mesures provisoires, la France sera désignée au monde entier et à la communauté internationale comme ayant commis un crime d'État.
L'avocat espère un examen très rapide de ce recours par la Cour d'appel de Paris. Il a également saisi à nouveau le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme sur cette même demande, mais ce n'est pas tout.
Nous poursuivons personnellement Madame De Wilde, directrice générale du CHU, et le docteur Vincent Sanchez, qui est en train de commettre cette folie, parce que il n'y aura plus de ministres, il n'y aura plus d'appareil d'État pour les protéger, et ils devront bien répondre personnellement de leur action ou de leur abstention.
La fin de vie de Vincent Lambert pourrait prendre jusqu'à 2 semaines. Ses parents espèrent obtenir dans ce délai une décision d'arrêt de la procédure.
Merci Corinne Audouin et bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Spécialiste des questions de santé à France Inter, c'est un dossier, cette affaire Vincent Lambert que vous suivez depuis de longues années. Avec vous, on va essayer de poser les enjeux pour conclure provisoirement cette histoire dans ce journal de 13h. D'abord Daniel, parole à un homme qui connaît de très près cette affaire, le docteur Carrigère. Faut rappeler qui il est.
Oui, il y a 6 ans, le docteur Éric Carrigère mettait en place le premier protocole d'arrêt de l'alimentation et d'hydratation, en accord avec Rachel Lambert, l'épouse de Vincent. Mais la mère, n'ayant pas été explicitement informée, avait obtenu que son fils soit réalimenté. S'en est suivi un marathon judiciaire avec une loi sur la fin de vie et des décisions qui valident toute l'obstination déraisonnable. Alors pour le docteur Carrigère, c'est aussi une semaine douloureuse, mais les traitements doivent s'arrêter.
Une décision d'obstination déraisonnable, c'est pas quelque chose de froid, c'est une accumulation d'éléments médicaux, de valeurs qui sont extrêmement personnelles, ce qu'on appelle des volontés d'un malade. On aboutit chaque fois à des réponses purement singulières, sur mesure, c'est ça la grandeur de notre médecine. On sait que quand le deuil est là, c'est généralement tous les proches qui peuvent s'apaiser, parce qu'aujourd'hui, depuis 6 ans, et tout particulièrement ces 4 dernières années, sont des vies entre parenthèses pour l'ensemble des membres de sa famille, quelle que soit leur position. Et bien sûr, c'est une souffrance pour l'équipe qui continue à l'accompagner. Aujourd'hui, ils ne sont pas en train d'abandonner leur malade à la mort. C'est indigne, c'est injuste du boulot que fait cette équipe depuis plus d'une décennie et demie maintenant. C'est développer tout leur savoir-faire palliatif pour que ce temps qui reste à vivre soit un temps qui soit un temps de confort. C'est le vœu presque pieux que j'émets à cet instant.
Alors une précision importante, Daniel Messager, des cas comme celui de Vincent Lambert, il y en a d'autres dans d'autres hôpitaux. Dans la très très grande majorité des cas, eh bien un consensus est trouvé.
Oui, c'est là une situation exceptionnelle, car voici le cadre de l'affaire Vincent Lambert. Une famille recomposée, des parents très religieux mais qui avant l'accident de leur fils avaient des liens distendus. La parole de l'épouse qui deviendra plus tard tutrice mais qui dans un premier temps n'est pas suffisamment reconnue. Une décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui laisse croire que d'autres recours sont possibles, alors qu'on l'a vu, toutes les plus hautes instances les balayeront. Tout ça est effectivement très exceptionnel. Dans l'immense majorité des cas, un consensus est trouvé entre l'équipe médicale et la famille, même s'il peut y avoir discussion et il faut qu'elle ait lieu parfois pour éclairer, préciser. Mais c'est le rôle de ces équipes de ne jamais oublier l'éthique dans le médical.
Merci Daniel Messager. Cette affaire Vincent Lambert, les questions qu'elle ouvre, dossier complet sur franceinter.fr. La fin de vie, ce sera également le thème du téléphone sonne ce soir. Vos questions et témoignages 01 45 24 7000 à partir de 18h ou d'ores et déjà sur franceinter.fr. Et à 6 jours des élections européennes, le parti qui se présente comme le défenseur de la souveraineté est accusé de faire le jeu de Trump et Poutine. Rien que ça, le Rassemblement National se voit reprocher par les macronistes le soutien affiché de Steve Bannon. Bannon, ex-conseiller de Trump, en partie installé en Europe et qui assume son objectif d'affaiblir l'Union européenne en tant que bloc concurrent des États-Unis. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Accusation embarrassante pour Jordan Bardella et Marine Le Pen.
Et oui, ils essaient de faire du parti de Marine Le Pen le parti de l'étranger, ceux qui se présentent comme les patriotes français seraient en fait aux mains des ennemis de la France. Attaque répétée par toute la majorité depuis ce week-end, a commencé sur France 3 par Nathalie Loiseau, la tête de liste En Marche.
Écoutez, des alliés qui détestent le projet européen et qui veulent nous affaiblir, nous diviser, nous fragmenter, ce sont pas des alliés, ce sont des adversaires.
Marine Le Pen, sous l'influence de nos adversaires, c'est un refrain qui, aux yeux de la majorité, peut pousser certains au vote utile dimanche.
Et quelle réponse au Rassemblement National ?
Eh bien, pour se défendre, Marine Le Pen avance le projet du RN pour un rapprochement avec Moscou, en faveur d'une sortie partielle de l'OTAN, contre l'extraterritorialité du droit américain, pour l'accord de Paris, rejeté par Trump. Steve Bannon n'aurait donc aucune influence sur le projet politique et aucun rôle dans la campagne. Elle l'a répété sur France Info ce matin.
Il n'a aucun rôle dans la campagne. Il est à Paris pour des affaires, donc ça n'a strictement rien à voir avec la campagne. Et ceux qui intègrent M. Bannon dans la campagne européenne, c'est vous, les médias.
Steve Bannon a donné 4 interviews depuis vendredi, mais c'est fini et cela soulage Marine Le Pen. Elle aimerait changer de séquence.
Alors cela dit, il y a des détails, Maxence, qui trahissent des liens entre Bannon et le Rassemblement National.
Ouais, vendredi dernier, par exemple, quand un journaliste du Parisien retrouve Steve Bannon à son hôtel pour une interview, il croise 2 cadres du RN qui sortent de sa suite. Jérôme Rivière, numéro 19 de la liste, serait juste venu parler d'actualité internationale et Marine n'était pas au courant, me promet-il. Steve Bannon a conseillé le RN pour cette campagne en termes de levée de fonds, d'utilisation des réseaux sociaux, c'est une certitude et c'est ce que reconnaissent hors micro tous les cadres du parti.
Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Merci d'être venu dans les studios de France Inter, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, l'un de nos meilleurs spécialistes de l'extrême droite. Que dites-vous des liens entre Steve Bannon et le Rassemblement National ? Quels sont-ils d'abord ?
J'ai dit depuis le début que si Steve Bannon pouvait faire quelque chose pour le RN dans cette campagne électorale, ce serait principalement sur la question de la levée de fonds, dont il connaît bien les rouages, mais dans un contexte éminemment différent, puisque nos législations ne sont pas du tout les mêmes. Et que les campagnes n'ont pas les mêmes coûts, et puis également pour aider à la professionnalisation du Rassemblement National, faire du media training, apprendre à faire des fiches sur tel ou tel sujet technique, mais clairement, ça n'est pas l'envoyé de Donald Trump qui est à Paris, c'est le consultant politique Steve Bannon qui est un chef d'entreprise et qui a besoin de conquérir des marchés, oui. Des clients. Il fait le tour d'Europe. Moi, je reviens de Norvège, où il était il y a quelques jours. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne. Moi, je suppose quand même que si M. Bannon est allé à Oslo et qu'il y a passé quelques jours, c'est bien qu'il avait l'intention d'y gagner aussi quelque argent, ou du moins d'entrevoir la possibilité d'un contrat. C'est un homme d'affaires. Aujourd'hui, le marché de la communication politique, il est totalement globalisé. Il y a des communicants français qui vont faire des campagnes pour des candidats à l'étranger, et il y a des communicants étrangers. On a peut-être moins l'habitude en France, qui vont faire des campagnes partout ailleurs dans le monde.
Donc la majorité grossit son influence à 6 jours de l'élection pour mettre en difficulté le Rassemblement National. On fait un peu de politique à l'ancienne dans cette histoire ?
Non, la majorité dit quelque chose de vrai, que Bruno Le Maire a très bien énoncé hier. C'est que les intérêts des États-Unis et les intérêts de la Russie ne sont pas ceux de l'Europe, et notamment pas d'une Europe forte. Mais ça ne date pas de la campagne des élections européennes, ni de l'irruption de M. Bannon dans la vie politique. Il faut se repencher sur l'ensemble de la vie politique européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Regardez notamment ce qu'en disait le général de Gaulle, qui avait une opinion extrêmement précise sur cette question. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont compris que l'Europe était peut-être mieux sous tutelle qu'ayant une politique étrangère indépendante et une politique de défense indépendante.
Et de ce point de vue-là, du point de vue de cet argument-là que vous développez, Bannon égale Le Pen ou ça n'a rien à voir ?
Bannon égale Le Pen. Sur les valeurs, non, pas totalement. Bannon est plutôt un anarchiste de droite, un agitateur d'idées. C'est pas quelqu'un qui veut le pouvoir pour lui. Il n'a d'ailleurs jamais, à ma connaissance, été candidat à quelque élection que ce soit. C'est quelqu'un qui sent qu'il se passe quelque chose en Europe et que ce qu'il ne peut plus faire aux États-Unis, parce que rappelons-le tout de même, il s'est fâché avec Donald Trump et avec, je crois, l'immense majorité des gens qui l'entourent. Ce qu'il ne peut plus faire aux États-Unis, il cherche à le faire en Europe parce qu'il a l'impression qu'il y a un vent qui souffle là et que les populistes ont dans le dos, donc qui les pousse considérablement, et il veut être de la partie. C'est aussi quelqu'un qui a quand même un ego assez surdimensionné et une haute, voire une très haute impression de sa personne.
De lui-même. Jean-Yves Camus, question de Maxence Lambrecq.
Vous avez l'impression que le projet politique du RN est sous influence américaine. Elle dit le contraire, Marine Le Pen.
Ah non, le projet politique du RN n'est absolument pas sous influence américaine. Le projet politique du RN, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a sur la question de l'OTAN, par exemple, une position qui n'est pas, comment dire, une position pro-américaine. Le Rassemblement national a un projet politique qui est propre, et je le rappelle quand même, il a une antériorité de victoire électorale qui date de bien avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est que quand Monsieur le maire dit hier que les États-Unis et la Russie ont intérêt à ce qu'il y ait une Europe la moins forte possible ou la plus faible possible, il ne fait qu'énoncer une constatation que l'ensemble des observateurs de la vie diplomatique et de la politique étrangère depuis, je vous l'ai dit, la fin de la Seconde Guerre mondiale ne peuvent que valider.
Mais ce qu'il sous-entend, c'est qu'il se sert des extrêmes droites en Europe et du Rassemblement national en France pour arriver à cet objectif-là. C'est vrai ou pas ?
Il y a des faits précis. La Ligue de Matteo Salvini et le FPE, par exemple, ont conclu des accords de coopération avec le parti Russie Unie, qui est le parti de Vladimir Poutine. Est-ce que c'était vraiment indispensable? Je suis pas certain. Donc ça dénote effectivement une orientation. Mais c'est pas la Russie démantelant la France que le RN va voir. C'est la Russie qui est pour eux le conservatoire des valeurs traditionnelles. L'idée au RN, c'est que Trump fait réémerger l'Amérique des valeurs, d'une part, et que Poutine représente, sur le plan sociétal, par le patriotisme, l'accent mis sur la famille, par cette vision verticale du pouvoir qu'il incarne, ce que l'Europe n'a plus, ce que les pays de l'Union européenne n'ont plus et qu'il faut rétablir.
Ce qui signifie, Jean-Yves Camus, en quelques secondes, on arrive déjà au terme de l'entretien, que au fond, ça n'est pas si embarrassant que ça, cette accusation-là, dans les jours à venir, pour le Rassemblement national, que leurs électeurs ne leur en feront pas grief.
Écoutez, quand on met bout à bout, effectivement, ce qui s'est passé en Autriche et cette accusation, je pense que Marine Le Pen aurait pu s'en passer. Elle semble d'ailleurs avoir envie que la séquence se termine vite, mais je pense pas que les électeurs français soient très prêts à déterminer leur vote sur ce type de considération.
Merci beaucoup Jean-Yves Camus d'avoir répondu à nos questions. Vous parliez de l'Autriche, on y va. Le leader de l'extrême droite accusé de collusion avec la Russie. Ça faisait un an et demi que droite et extrême droite siégeaient côte à côte au gouvernement. Depuis ce week-end, il y a une crise politique majeure. Le leader donc du FPO extrême droite filmé en caméra cachée. L'origine de la vidéo n'est pas établie. Il évoque des contrats publics autrichiens en échange d'argent russe, un financement illégal de son parti. Hans Christian Strache a démissionné de ses mandats. Est-ce que tous les ministres d'extrême droite vont partir, c'est la question. Et donc, au cœur de cette affaire, la Russie, même si le Kremlin affirme ne rien avoir à faire avec la crise autrichienne. Bonjour Claude Bruyot.
Bonjour.
Que dit-on à Moscou de cette affaire autrichienne ?
Écoutez, en pareille circonstance, comme toujours, la ligne de défense officielle fait la part belle ici aux dénégations, à celle du Kremlin ce matin. Mais durant le week-end, déjà, la première réaction est venue du Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement russe, en la personne d'Oleg Morozov, un des sénateurs membres du Comité des Affaires étrangères, pour qui, je cite, « il est impossible de lier la Russie à cette sombre affaire en se basant sur une vidéo qui ramène l'histoire au scénario d'un film à suspense », fin de citation. Mais comme si cela faisait un peu court, aujourd'hui, c'est le fameux oligarque russe qui sort de sa réserve, un dénommé Igor Makarov, fondateur d'une compagnie de gaz revendue au consortium Rosneft. L'intéressé fait savoir aux médias russes aujourd'hui que tout le monde sait qu'il est fils unique et que par conséquent il ne peut avoir de nièce, affirmant que la dénommée Alena Makarova, en action à Ibiza avec Strare, n'a aucun lien de parenté avec lui. Et pour faire bonne mesure, eh bien, Igor Makarov assure qu'il mettra tout en œuvre pour découvrir qui se cache derrière cette affaire.
Bon, alors, est-ce qu'on peut mesurer les influences russes dans cette campagne des européennes, Claude ?
Alors écoutez, plus généralement, on peut dire que ces influences vont par exemple du financement russe d'une centrale nucléaire géante dans la Hongrie de Viktor Orban aux prises de position par exemple du président tchèque Miloš Zeman pour demander la levée des sanctions prises contre la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. Mais l'Europe centrale n'est pas la seule concernée, on l'a dit, par ces actions d'influence du Kremlin qui a ainsi depuis longtemps consolidé par exemple, on l'a dit aussi, ses liens avec l'Italie. C'est un passé un peu inaperçu, mais au plus fort du bras de fer budgétaire entre Rome et Bruxelles, eh bien, Vladimir Poutine avait déclaré qu'il avait toute confiance dans la solidité de l'économie italienne, et certains observateurs ici laissaient entendre alors que, en cas de difficulté insurmontable, eh bien, la Russie aurait pu voler au secours de l'Italie, par exemple.
Merci Claude Bruyot, en direct de Moscou pour France Inter, la campagne électorale sur France Inter. Demain, Jordan Bardella, invité de la matinale, mercredi, le débat sur France 2 et France Inter. Et ce soir, on attend une interview d'Emmanuel Macron à la presse régionale. Avant de parler de Google et Huawei, des taxis et des VTC et de l'actualité culturelle, c'est mon actu chaque lundi dans ce journal de 13h. Vous dites à Sandrine Houdin quelle est votre actualité de la semaine. Cette semaine, voici Charlotte, 17 ans, le bac dans un mois, mais vendredi, elle séchera les cours. Elle fera grève pour le climat. À l'appel de Greta Thunberg, les vendredis de manifestation de la jeunesse que cette militante suédoise a imposé dans le paysage ces derniers mois, le 15 mars par exemple. Eh bien pour Charlotte, l'envie de devenir militante est née pendant un cours, elle raconte à Sandrine.
On était en cours de philo, on parlait du chapitre travail technique, et on parlait donc du capitalisme, tout ça, et notre prof nous a parlé de l'écologie, comme quoi c'était super important de s'engager, de se rendre compte de l'enjeu actuel, et je sais pas pourquoi, j'ai eu un tilt, et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est vraiment n'importe quoi, faut qu'on fasse quelque chose, tout ça.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, ça te passait au-dessus de la tête?
Franchement, oui.
C'est ce cours qui a tout déclenché?
Oui. Oui, clairement. Et j'ai même eu envie de créer un site. Ça s'appelle Green Future. Je vais vous le montrer. Tous les jours, je poste des chiffres du jour.
Tous les jours ?
Ouais, sur la mortalité due à la pollution de l'air dans le monde, en France. Je sais pas, plein de trucs. Le nombre de déchets dans la mer Méditerranée.
Tu faisais ton site et alors là arrive Greta.
Non, mais Greta, elle est arrivée bien avant moi. Mais je suis allée sur son compte, j'ai vu qu'elle avait plein d'abonnés, tout ça, tout ça. Bah en fait, pour nous, c'est un peu un symbole, quoi.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'elle a motivé tellement de personnes le 15 mars. Il y a eu énormément de personnes à Paris, alors que bon, elle est suédoise. Ça, c'est super quoi d'avoir un modèle comme elle.
Le premier combat de Greta, c'est de changer les comportements. Tu as évidemment changé le tien.
Ah oui, bien sûr. J'ai adopté plein de gestes quotidiens. Trier ses déchets, prendre les transports en commun, acheter des vêtements de seconde main, prendre des douches plutôt que des bains.
Charlotte, ça t'énerve quand on dit « bon, ils manifestent, en fait, c'est pour sécher les cours ».
Ah oui, parce qu'on manifeste pas pour sécher les cours, on veut juste préserver la terre et... Tant qu'il n'y a pas de réforme, on ne s'arrêtera pas, quoi.
Et la manifestation, c'est vendredi. Les mesures de défiance et d'embargo à l'égard du chinois Huawei deviennent très concrètes pour les consommateurs. C'est maintenant Google qui prend ses distances avec l'équipementier télécom, soupçonné par Donald Trump en particulier, d'espionnage au profit de la Chine. Trump demande aux entreprises américaines de ne plus faire d'affaires avec Huawei. Eh bien, Google s'exécute en partie. Son logiciel Android équipe la plupart des téléphones du chinois. L'américain ne partagera plus de technologie. Seul ce qui est en accès libre sera utilisable. Alors, Adrien Toffolet, pour ceux qui ont un téléphone Huawei en France et en Europe, quelles conséquences?
Eh bien, pour l'instant, ça ne change rien. J'ai testé pour vous, Bruno, en tant que propriétaire d'un téléphone Huawei. J'ai bien accès à tous les services de Google, YouTube, Gmail, mais aussi à ce qu'on appelle le Store Google Play, le magasin d'applications qui vous permet d'installer sur votre smartphone les applis, celles de votre banque par exemple, les réseaux sociaux, mais aussi l'appli France Inter qui vous permet d'écouter votre journal de 13h favori. Ces applis sont utilisables normalement et, détail important, les mises à jour restent possibles pour l'instant. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est possible. Tout comme la possibilité de mettre à jour Android, le système d'exploitation, sa colonne vertébrale en quelque sorte, qui assure le fonctionnement de la sécurité notamment. Elle devrait en revanche venir avec du retard sur les autres téléphones. Tout cela concerne non seulement les smartphones en service, mais aussi ceux qui sont déjà construits et qui sont en stock, en attente d'être achetés. Les conséquences, en réalité, elles sont avant tout pour les Européens qui achèteront les futurs téléphones de Huawei. Ceux-là seront privés de la version complète d'Android et des services de Google que je viens de citer. Tout l'enjeu pour Huawei, qui ne semble pas décidé à céder aux pressions américaines, tout l'enjeu sera de développer pour l'Europe, ce qu'il a déjà fait pour le marché chinois, un système d'exploitation équivalent en remplacement qui donnera accès aux mêmes applications, mais ça c'est pas gagné.
415 km de bouchons cumulés en Ile-de-France avant 9h. C'est beaucoup pour un lundi, tout ce qu'il y a de plus classique en principe. Eh bien, c'est la conséquence des opérations escargots menées à la fois par des syndicats de chauffeurs de taxi, de professionnels des auto-écoles et une association d'ambulanciers. Tous protestent contre la loi mobilité actuellement examinée à l'Assemblée nationale. Les taxis, mettons le zoom sur eux, estiment que ce projet de loi les met sur le même plan que les VTC, les chauffeurs de type Uber. Écoutez Étienne, il est taxi à Paris depuis 20 ans.
Plus on avance dans les textes de loi, plus on se rend compte que le gouvernement veut mettre sur le même pied d'égalité le taxi et les VTC. On a vraiment l'impression qu'à terme, on veut fusionner les deux professions pour n'en faire qu'une. Il y a un article de loi, la loi Grand-Guillaume, qui est l'interdiction de la maraude électronique. La maraude, c'est quelque chose qui est réservé aux taxis. C'est-à-dire qu'on est les seuls à pouvoir avoir théoriquement des applications sur lesquelles les gens vont nous commander. Ce qui se passe, c'est que les VTC font de la maraude électronique. Ils ont joué sur les mots. Eux considèrent que cliquer sur un smartphone, c'est commander à l'avance. Donc ils font de la contrefaçon de taxis. Et le gouvernement ne fait rien.
Est-ce que vous avez vu votre activité baisser depuis l'arrivée des VTC ?
Mais évidemment, l'activité a baissé et le prix de la licence a baissé. Il faut savoir que la licence a perdu 50% de sa valeur en 5 ans. C'est un peu comme le cours de bourse. Si la licence ne remonte pas, ça veut dire que le métier de taxi ne reprend pas de vigueur.
Voilà, pour ce chauffeur de taxi rencontré ce matin par Sébastien Sabiron dans une opération escargot pour les Parisiens. Il y a quelques minutes, l'opération se tenait du côté du boulevard Raspail. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Alors, ce chauffeur parle de fusion à terme. C'est ce qu'il voit venir entre taxi et VTC. Que change le projet de loi mobilité ?
Eh bien, en réalité, pour l'instant, pas grand-chose. Mais les taxis, on vient de l'entendre, ne se sentent pas suffisamment protégé par ce futur projet de loi mobilité. Une loi qui ne changera rien sur le fond pour les taxis, insiste le ministère des Transports. Et pour cause, cette autorisation qui leur est donnée de circuler dans les couloirs de bus ou de faire de la maraude ne dépend pas de la loi, mais bien des municipalités. Aucune disposition législative ne vient donc changer cette prérogative des taxis de circuler dans les couloirs de bus. Mais les taxis estiment pour autant qu'il faut sortir de l'ambiguïté. Si cette prérogative d'aller dans les couloirs de bus dépend de la mairie de Paris, eh bien ils s'inquiètent et manifestent aujourd'hui contre un éventuel changement politique à la tête de la mairie de Paris. Les taxis voudraient donc que cette prochaine loi mobilité interdise noir sur blanc la circulation des VTC dans les couloirs de bus. Pour calmer les esprits, le ministère a bien ajouté un amendement la semaine dernière pour lever toute ambiguïté, mais les syndicats de taxis n'en débordent pas. Si rien n'est sanctuarisé dans la loi, les VTC pourront bel et bien un jour accéder aux couloirs de bus comme n'importe quel taxi.
Merci Laurent Kramer. Que de grands noms du cinéma cette année à Cannes. Après Ken Loach, Pedro Almodovar, avant les frères Dardenne, ce soir Terrence Malick, Palme d'or il y a 8 ans pour The Tree of Life, présenté hier soir son nouveau film Une vie cachée, histoire d'un paysan autrichien résistant aux nazis. Mais résumer un film de Terrence Malick en une ligne est évidemment impossible. Tout est dans le regard porté sur les visages de ces personnages, sur la nature. Auguste Bill incarne le personnage principal de ce film. Tourné avec Malick, dit-il, a changé sa conception du métier d'acteur.
Ça a changé tellement de choses pour moi. Terrence travaille d'une façon complètement différente par rapport à tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé jusque-là. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a fait réfléchir sur mon métier, ma vision de la vie, ma personnalité. Ça va très loin. Et je peux vraiment dire qu'il y aura pour moi une vie professionnelle avant et après ce film. C'est un carrefour. C'est aussi dû à la personnalité de Terrence. Vous savez, en tant qu'acteur, vous essayez toujours de rendre une situation ou une scène plus intéressante que ce qu'elle est en réalité. C'est votre tâche. Et pour le personnage que j'incarne, avec en plus la vision du monde de Terrence, c'est en fait la simplicité qui en fait toute la force. En quelque sorte, c'est un peu comme ne pas jouer. Et je n'avais jamais fait ça. Aussi parce que je n'avais jamais rencontré quelqu'un en qui j'avais suffisamment confiance. Quelqu'un comme Terrence.
Un propos recueilli par Corinne Pellissier ce soir, donc en course pour une troisième Palme d'Or, les frères Dardenne et Ira Sachs pour le film Frankie avec Isabelle Huppert. Le Festival de Cannes à suivre également sur franceinter.fr.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
Situation instable cet après-midi entre l'Alsace, la Lorraine, les Alpes et l'Ouest Corse avec un ciel souvent bien chargé et des passages d'averses. Les averses peuvent parfois prendre un caractère orageux et déborder vers les plages de la Côte d'Azur. Plus à l'ouest, le risque d'averses et d'orages est plus localisé, mais quelques développements menaçants ne sont pas exclus, notamment entre la Normandie et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Les éclaircies tendent à s'affirmer sur la moitié ouest avec même un soleil généreux entre les plages bretonnes et la Côte basque. Temps sec et lumineux autour du golfe du Lion avec un soleil voilé mais une ambiance bien ventée. Les températures maximales sont en légère hausse cet après-midi, montant entre 15 et 20 degrés en général. Le pourtour méditerranéen a des températures un peu plus élevées, avec jusqu'à 23 degrés cet après-midi.